J'aimerais vous demander d'abord, monsieur, depuis combien de temps vous êtes à Orléans?
Je suis né à Orléans.
Et vous vous y plaisez?
Eh bien, mon Dieu, oui, ce n'est pas une ville qui peut être considérée comme une capitale de province, mais enfin, il y a la proximité de Paris, il y a les charmes du Val-de-Loire. C'est une région calme, équilibrée.
Et vous comptez rester ici?
Eh bien, j'ai un problème personnel, je ne sais pas si je dois en parler. Je suis marié avec une Lyonnaise et je ne sais pas encore si ma femme viendra ici ou si c'est moi qui irai à Lyon.
Ah, je vois. Pouvez-vous nous parler de votre travail maintenant, s'il vous plaît?
Oui, alors, à la tête des services administratifs des établissements d'enseignement supérieur, il y a un chef de service qu'on appelle communément secrétaire général. Autrefois, les services administratifs des facultés, en particulier avant la guerre de 1940, étaient réduits à leur plus simple expression, c'est-à-dire qu'il y avait en tout une ou deux personnes qui faisaient fonctionner les secrétariats des facultés. Depuis, et c'est un phénomène général en France, et il doit être aussi général dans les autres pays, les secrétariats des facultés se sont considérablement développés, aussi bien en ce qui concerne la gestion des étudiants que la gestion du personnel enseignant. Par conséquent, ici, dans cet établissement, comme dans toutes les facultés, nous avons des services administratifs qui se développent chaque année et qui comprennent différents services. Le plus important, à mon avis, c'est le service de la scolarité, c'est-à-dire le service qui s'occupe à proprement parler, des étudiants. Qui les prend en charge au moment de leur inscription, qui suit le déroulement de leurs études, qui prend leur présence et leurs absences aux séances de travaux dirigés, qui s'occupe de leurs inscriptions aux examens, parce que dans les facultés, l'inscription aux examens est différente de l'inscription à la scolarité. On peut très bien s'inscrire au mois d'octobre en scolarité, sans pour cela s'inscrire à l'examen. La réciproque, par contre, n'est pas vraie. On ne peut pas s'inscrire à l'examen si on n'est pas déjà auparavant inscrit en scolarité.
Et il y a une différence maintenant à ce moment-là. J'avais compris que auparavant on pouvait se présenter aux examens, les ayant préparés tout seul.
Non, jamais. Jamais, non. Ah bon. Il faut être inscrit en scolarité.
Ah oui, je vois.
Alors le rôle du service de scolarité est également de s'occuper des bourses, de la sécurité sociale de l'étudiant, enfin de le suivre au cours de ses études. Malheureusement, il n'y a pas encore de service ici qui s'occupe des étudiants au moment de la fin de leurs études, au moment où ils quittent l'établissement, en somme une espèce de service qui consisterait à peut-être prendre contact avec des employeurs éventuels, vous voyez. Il peut se créer dans les facultés un service qui consisterait à placer les étudiants à la fin de leurs études. Mais ça n'existe pas, à ma connaissance, ça n'existe pas encore.
Vous estimez que ce serait
utile? Ce serait très utile, oui. Ça se pratique beaucoup, par exemple, dans les grandes écoles, qui ne font pas partie de l'enseignement supérieur, mais ça se pratique. Et oui, il y a une amicale des anciens élèves des grandes écoles qui s'occupe de suivre leurs camarades plus jeunes au moment où ils quittent l'établissement avec leur diplôme et pour essayer de leur trouver du travail. Mais à la fin de l'enseignement supérieur, les licenciés ne connaissent pas ces bienfaits des amicales.
Alors,
ils sont un peu, je crois, jetés sur le marché. Et évidemment, ceux qui n'ont pas tellement de relations ont sans doute des difficultés à trouver du travail.
Ah oui.
Oui. Alors, puisque vous étiez en train de parler de mon travail, il existe bien sûr d'autres services que celui de la scolarité. Il existe le service de la comptabilité, puisque les facultés ont la personnalité morale et l'autonomie financière jusqu'à maintenant, et par conséquent ont un budget propre sur lequel elles paient les différentes dépenses entraînées par la gestion de l'établissement. Il y a aussi le service du personnel. Ce service du personnel, surtout du personnel enseignant, consiste à suivre, depuis la nomination de l'enseignant, le déroulement de sa carrière jusqu'au moment où il quitte l'établissement, et aussi à suivre le paiement de ses activités. Il existe aussi dans les facultés des services techniques qui rendent de grands services et qui sont même indispensables. Je pense en particulier à la bibliothèque. Il y a toujours dans chaque faculté une bibliothèque qui peut être considérée par conséquent comme un service technique à la disposition des étudiants et aussi des professeurs. Alors ces bibliothèques ont un crédit, ont une masse de crédits dont elles disposent, et ce sont les professeurs qui font les commandes des ouvrages destinés aux études et à la recherche. Il existe aussi un service technique très important qui fonctionne une partie de l'année, c'est le service des travaux dirigés. Voyez-vous, dans les facultés de droit, il existe des travaux dirigés à l'intention des étudiants. Ce sont en somme des séances qui complètent la formation théorique que les étudiants reçoivent pendant les séances de cours magistraux. Ces séances de travaux dirigés sont obligatoires, alors que les séances de cours ne sont pas obligatoires, et un volume assez important de documents est remis aux étudiants. Par conséquent, la faculté doit posséder un service imprimerie et un service de duplication qui permet de distribuer ces documents aux étudiants. Voilà en gros l'organisation matérielle et administrative et technique d'une faculté. Alors là, je crois que j'ai rapidement exposé les grandes lignes. En ce qui concerne les facultés de droit, c'est peut-être un peu différent des facultés de sciences et de lettres.
Quelles sont les nouvelles dispositions conçues pour les études supérieures ? Tout a changé dans ces dernières années.
Eh bien, depuis l'an dernier en particulier, on a une certaine liberté, on a une certaine autonomie en ce qui concerne l'organisation des études et des examens qui n'avaient pas lieu avant. Il y a une plus grande souplesse dans le choix des matières que les étudiants...
Est-ce que vous pourriez donner des exemples, s'il vous plaît ?
Oui, par exemple, on a mis, je prends cet exemple-là qui sans doute vous intéresse, on a mis à l'étude cette année dans le programme d'enseignement des cours de langue.
Tu veux dire linguistique ou de langue moderne ?
Langue moderne. À la disposition des étudiants, parce qu'il existe des traités de droit qui sont en langue anglaise ou qui sont en langue allemande. Et on a pensé que les étudiants qui avaient reçu une formation type enseignement secondaire pourraient recevoir un complément de formation en anglais et en allemand, afin de faciliter plus tard leur travail, leurs échanges, la lecture d'ouvrages en langue anglaise ou en langue allemande.
Est-ce que beaucoup d'étudiants profitent de cette possibilité ?
Et oui, cette option, c'est une option, c'est un cours à option et il intéresse beaucoup d'étudiants. Malheureusement, nous avons eu des difficultés pour l'organiser parce que nous n'avons pas de professeur d'anglais rattaché à l'établissement. Nous avons été obligés de faire appel en cours d'année à des professeurs des lycées d'Orléans, et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de professeurs d'anglais dans l'éducation nationale, dans le second degré. Il n'y a pas assez de professeurs d'anglais. Les professeurs d'anglais ont des services assez lourds. Ils font beaucoup d'heures supplémentaires et ils n'ont pas pu encore donner un complément d'heures supplémentaires pour notre faculté.
Vous avez pensé à faire appel à des anglais ?
Eh bien, nous avons des lecteurs. Voyez-vous, ce sont des jeunes étudiants d'origine anglaise,
oui,
et qui viennent donner des cours à nos étudiants. C'est surtout sous forme de conversation. Alors nous avons également un autre problème qui est plus technique, celui-ci, c'est celui qui concerne les étudiants de sciences économiques. Les étudiants de sciences économiques doit faire souvent usage d'ouvrages anglo-saxons, parce que vous savez que les meilleurs économistes sont américains. La plupart des traités d'économie politique sont en langue anglaise. Alors là, cet enseignement est obligatoire pour les étudiants de sciences économiques. On l'a rendu obligatoire cette année, dans toutes les années. Alors voilà un exemple de petite réforme, si vous voulez, mais enfin d'aménagement des études dans la licence en droit et en sciences économiques.
Et la licence en droit se passe en deux cycles?
Alors il y a toujours deux cycles d'enseignement, enfin il y a trois cycles d'enseignement supérieur. Le premier cycle qui est une formation générale, le deuxième cycle qui est une spécialisation, et le troisième cycle qui est un cycle de recherche et de spécialisation poussée et approfondie. Alors nous ici, nous n'avons pour l'instant, puisque c'est une faculté qui est toute jeune, puisque c'est un décret du 3 juin 1966 qui a créé le Collège de droit à Orléans, premier établissement de droit dans l'université d'Orléans-Tours d'ailleurs, et c'est une jeune faculté qui se développe, et par conséquent, nous n'en sommes actuellement qu'à la quatrième année de licence en droit et à la troisième année de licence à sciences économiques. Mais il est possible que par la suite, d'ailleurs, ces enseignements destinés aux juristes et aux économistes soient scindés. Jusqu'à maintenant, les facultés de droit s'appelaient facultés de droit et des sciences économiques. Les étudiants de droit recevaient une petite formation économique. Les étudiants de sciences économiques recevaient une formation juridique assez importante. Mais depuis la rentrée 68, il y a eu la réforme des études de sciences économiques et la partie juridique a été beaucoup, beaucoup réduite.
Merci beaucoup. Pour parler un petit peu de ce qui se passe dans les écoles et dans les lycées, quelles sont les différences maintenant entre les lycées, les CEG, les CES?
Oui, alors là, je connais mal ce problème depuis 3 ans, puisque auparavant j'étais directeur d'un CEG et je le connaissais bien. Depuis, il y a sans doute eu des modifications que je n'ai pas peut-être très bien suivies. Mais enfin, je vais essayer de faire appel à mes souvenirs. La réforme a prévu que les CEG et les CES donneraient une formation, iraient, si vous voulez, jusqu'à la fin du premier cycle de l'enseignement, autrefois appelé enseignement secondaire, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la troisième. Alors les CEG, c'est le type d'établissement qui reste valable dans les régions rurales ou semi-rurales. Le CES, c'est le type d'établissement qui se développe et qui, je crois, maintenant est arrivé à son plein développement dans les régions, soit des régions semi-rurales, soit alors des régions franchement urbaines, soit dans des zones franchement urbaines. Alors je crois qu'il y a deux types d'établissements de CES, de CES à 600 et CES à 900 élèves. Ça, c'est un ancien. Il me semble avoir entendu parler de ça autrefois, puisque le CEG où j'étais a été transformé cette année en CES. Dans les CES, il y a plusieurs types d'enseignement. Il y a l'enseignement moderne, il y a l'enseignement pratique, et autrefois, enfin, il y a aussi l'enseignement classique, mais vous savez qu'on a considérablement réduit les études de classique, en particulier de latin, dans les établissements français. Et alors, à la suite de la troisième, les élèves des CEG et des CES vont dans les lycées. Ils vont dans les lycées, soit des lycées modernes, soit des lycées techniques. Voilà en gros l'organisation de l'enseignement du second degré. Premier stade CEG-CES, de la sixième à la troisième, et ensuite second cycle de l'enseignement secondaire, c'est le lycée.
Merci beaucoup.
Autrefois, oui, je m'excuse, autrefois les lycées commençaient à recruter au niveau de la sixième leurs élèves. Maintenant, d'après la nouvelle législation, c'est au niveau de la troisième.
Cela est en cours maintenant.
Oui, c'est fait maintenant. C'est fait.
Est-ce grande différence entre les élèves dans ces différents collèges.
Dans ces différents établissements. Alors, cette différence s'estompe parce que le même type d'enseignement est maintenant donné aussi bien dans les CEG, les CES, que les CES. Et le premier cycle des lycées, là où il y a encore des lycées qui ont un premier cycle. Puisque la réforme est quand même assez lente à se dérouler. Autrefois, non. Même quand j'ai commencé à enseigner dans les CEG, il y avait cette distinction entre l'enseignement des lycées qui était réservé aux meilleurs élèves et puis l'enseignement des CEG qui était réservé aux élèves, disons, qui réussissaient moins bien dans les études et aussi qui étaient d'un niveau social moins élevé. Le lycée restait l'établissement d'une certaine classe sociale, c'était sa fonction depuis sa création, et cette habitude continuait à subsister dans l'esprit des familles, même actuellement, même il y a quelques années. Je crois maintenant que c'est à peu près terminé, parce que d'abord il y a eu des règles là où dans une agglomération existe encore à l'heure actuelle, quoique je vous ai dit que ça disparaissait, là où existait, disons, il y a quelques années, des premiers cycles de lycée et un CEG ou un CES, il y a eu des règles comme quoi l'élève qui habitait dans la zone du CES ne devait pas aller en sixième au lycée.
Comment est-ce qu'on fait le choix entre l'école publique et l'école libre ?
Alors ça, ce sont des considérations, c'est la vieille tradition française qui a maintenu à côté d'une école publique d'État une école privée confessionnelle, surtout à tendance catholique. Je crois qu'il n'y a pas... Les protestants d'ailleurs se sont ralliés à l'école publique. Et le choix des familles se fait en fonction, bien sûr, de leurs croyances personnelles et aussi peut-être en raison d'une certaine situation sociale. J'ai des amis qui ont deux filles. Ils ont une école communale publique à 1 km de chez eux et ils conduisent néanmoins leurs deux filles à l'école privée parce qu'ils pensent que dans l'école privée, qui à 90% des cas, dans 90% des cas, est une école catholique, ils pensent que la formation morale sera conforme à leurs convictions, plus que dans une école neutre, une école publique dite neutre. Néanmoins, je dois préciser que dans les écoles publiques existent des cours d'instruction religieuse facultatifs.
Pour revenir à la ville d'Orléans, est-ce que d'après vous, on fait assez pour les habitants d'Orléans ?
Bien, vous savez, on est peut-être meilleur juge quand on voit le développement d'une ville de l'extérieur et non pas quand on est un de ses citoyens. Mais je pense qu'il y a un gros effort de fait dans toutes les villes françaises actuellement. La France était restée jusqu'à ces dernières années encore un pays où la population rurale représentait un pourcentage assez important, beaucoup plus par exemple qu'en Angleterre, je crois, même qu'en Allemagne. Et puis on assiste à ce phénomène qui est peut-être amplifié en France, c'est la désertion des campagnes. Alors il faut absolument que les villes se développent, non pas simplement au point de vue logement, mais aussi au point de vue infrastructure, c'est-à-dire routes, ponts, échangeurs, enfin, tout ce qui contribue à améliorer la circulation, et aussi en équipements sociaux, et culturels, écoles, crèches, caisses d'allocation familiale, enfin, il faut également développer l'ensemble des services publics. Il y a un gros effort a été fait depuis la libération à Orléans même. C'est pas une ville qui est restée endormi. Il y a eu tout, depuis la libération, il y a eu des maires dynamiques qui ont compris qu'il fallait donner une impulsion pour qu'Orléans vive avec son temps, quoi. Il ne fallait pas laisser un certain retard s'accumuler parce que ça prendrait des proportions catastrophiques au bout de quelques années. Alors un gros effort a été fait au point de vue logement. Des cités entières ont été construites, je pense en particulier à la cité de la Madeleine à l'ouest, à la cité de l'Argonne à l'est. Ensuite, le développement de la commune d'Orléans étant considérablement réduit au nord, il n'y avait plus de terrain, l'extension s'est faite vers le sud. Et tout dernièrement, enfin, il y a quelques années, du côté d'Orléans 2, pour faire une deuxième ville, à quelques kilomètres de la première. Le problème d'Orléans, c'est aussi le problème de toutes les villes. C'est un problème juridique et qui bouleverse un peu les traditions françaises. Les Français étaient très attachés à leur commune. Or, il se trouve qu'on ne peut plus considérer une ville comme une commune, mais une ville comme un ensemble de communes autour d'une commune plus importante. Je pense à toutes ces communes qui se trouvent autour d'Orléans, qui s'appellent Saint-Jean-de-Larvel, Saran, Fleury-des-Aubrais, Saint-Jean-de-Bré, Saint-Jean-le-Blanc, Olivet, etc. Et, enfin, quand je dis etc., il ne va plus en manquer beaucoup. C'est ce qu'on appelle maintenant l'agglomération orléanaise. Or, cette agglomération orléanaise comprend une très grosse commune de 80-90 000 habitants qui s'appelle Orléans. Et autour, il y a un certain nombre de petites communes qui ont de 5 à 15 000 habitants, qui ont leur autonomie, qui ont leur conseil municipal, qui ont leur budget, et qui parfois ne sont pas toujours en accord, n'ont pas toujours une politique commune. Alors ce qu'il faudrait, c'est un regroupement de ces communes au sein d'organismes qui peuvent prendre des formes très variées. Ça peut être la fusion simple, ça peut être un syndicat communal, ça peut être un district urbain, etc. Mais il faudrait, je pense, que pour les équipements collectifs, comme par exemple une usine d'assainissement, ou une politique vraiment cohérente de circulation à l'intérieur de l'agglomération, que les communes s'entendent et aient une politique commune. C'est là le sens vraiment qu'il faut donner à l'évolution d'une agglomération si on veut que les problèmes soient résolus d'une façon efficace. Parce qu'on, voyez-vous, il y a des exemples. Bon, il y a un pont qui est entre deux communes, alors il faut élargir ce pont. Une commune veut bien l'élargir, mais l'autre ne veut pas. Enfin, vous voyez, des problèmes qui se posent, qui sont des problèmes très matériels, mais qu'il faut quand même résoudre. Puis c'est pas normal non plus que les impôts soient différents selon qu'on habite à gauche ou à droite de la rue.
Cela arrive.
Et cela arrive à Orléans, oui. Avec Orléans et d'autres communes où le taux des impôts est différent, soit plus élevé, soit plus faible.
Oui. Est-ce que la différence entre les classes sociales est remarquée à Orléans ?
Eh bien, Orléans n'est pas une ville comme vous en voyez par exemple dans le nord de la France. La ville, ce n'est pas une ville de mines, ce n'est pas non plus une ville de grandes usines. C'est une ville qui est plutôt axée sur la vie commerciale et le secteur tertiaire, les administrations, les services publics. Donc il n'y a pas non plus, si vous voulez, une bourgeoisie très, très influente. Alors je pense que c'est une ville où les différences sociales ne sont pas tellement marquées. Enfin, elles sont marquées comme en France, quoi, parce qu'il y aura toujours, même dans la plus petite commune de France, il y aura toujours des différences sociales entre les habitants. Enfin, j'ai pas l'impression qu'à Orléans, cette différence soit tellement, tellement marquée. Il n'existe pas un prolétariat industriel ou même agricole comme on l'a connu dans des régions minières ou des régions d'usines.
Quelques questions un peu sur la politique. Lorsque vous votiez pour un député, qu'est-ce que vous attendez de lui ?
On attend toujours beaucoup de choses d'un député pour lequel on vote. Je me souviens d'avoir vu, ici nous avions un professeur qui était devenu député, et il avait éparpillé son courrier sur la table de la salle des professeurs, et j'avais vu, sans curiosité, je l'ai vu, j'aurais peut-être pas dû le lire, mais enfin j'ai vu une lettre où un ouvrier de sa circonscription, qui était tapissier je crois, demandait à son député de lui trouver une place d'huissier à l'Assemblée nationale. Alors je ne crois pas qu'il faille attendre d'un député une amélioration de sa situation personnelle. Non, je crois qu'un député, c'est surtout... On vote plus pour l'homme que pour l'étiquette politique. Je crois que ce qu'on attend de lui, oui. c'est quand même qu'il s'occupe de sa circonscription.
Oui.
Plutôt que de défendre des grandes idées abstraites,
oui.
Devant un hémicycle.
S'occuper de sa circonscription, ça veut dire qu'est-ce qu'il peut faire ?
Eh bien, tout d'abord, obtenir des crédits pour les travaux, pour les équipements collectifs. Ne pas laisser sa circonscription à la traîne, voyez-vous. Non pas obtenir des crédits exceptionnels pour telle ou telle chose parce qu'il est député, mais je pense quand même que le député qui s'occupe de sa circonscription doit défendre auprès des administrations centrales, en particulier le ministère des Finances, puisque c'est surtout celui-là qui est important, doit défendre, doit s'assurer qu'il n'y aura pas de retard dans tout ce qui concerne l'équipement de sa circonscription.
Il y a un député Orléans.
Oui.
J'imagine. Au cours de Loiret, comment est-ce que ça se passe ?
Ah, il y a plusieurs députés dans le Loiret, il y a plusieurs circonscriptions électorales.
Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a deux tours dans les élections nationales ?
Ah, vous savez, la forme de scrutin varie selon les époques et selon les régimes, selon les numéros des républiques. Alors, il y a deux tours, bien, pour favoriser, pour découvrir une majorité relative la deuxième fois, lorsqu'il n'y a pas une majorité absolue la première fois, quoi, c'est ça.
Quelle est la différence, pensez-vous, entre la droite et la gauche ?
Ah, bah c'était une différence assez marquée autrefois, et je crois qu'elle a perdu une grande partie de sa valeur. Personnellement, je le pense. Parce qu'il y a des hommes de droite qui sont quand même progressistes et qui veulent faire avancer, qui veulent pousser à un certain nombre de réalisations. Et puis il y a des hommes de gauche qui restent très conservateurs dans leurs attitudes et qui restent fidèles à certaines théories ou à certains hommes politiques d'autrefois et qui n'avancent pas plus que des hommes de droite. Enfin, disons que d'une façon générale, la droite, c'est tout ce qui concerne la conservation de certaines structures sociales. La droite n'aime pas tellement le bouleversement, elle est attachée à des traditions, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient religieuses. La gauche est plus ouverte, a moins de préjugés peut-être. Enfin, c'est une distinction qui concerne surtout les individus, plus que leur étiquette politique, à mon sens.
Est-ce que vous voulez parler un petit peu des événements de mai dernier?
Alors, vous savez, on a vécu les événements de mai. Et maintenant, on peut peut-être en parler avec un certain recul, parce que sur le moment, on ne comprenait pas très bien. La crise est partie de l'université, bien sûr. Ce n'est pas un phénomène français, c'est un phénomène même pas européen, mais mondial. Il y a une crise de l'université, il y a une crise d'autorité, et il y a surtout, je pense, un fossé qui se creuse entre deux qui s'est creusé, enfin je ne sais pas si il va être comblé un jour, qui s'est creusé entre deux générations. Il y avait déjà des révolutions dans les familles, entre l'adolescent de 16 ans et les parents qui en avaient 40. Ils ne se comprenaient pas souvent. Il arrive que des parents et des enfants ne se comprennent pas, alors qu'il y a 100 ans, je crois qu'ils se comprenaient parfaitement. Alors cette révolution au sein des familles, je crois qu'elle est descendue dans la rue, elle s'est amplifiée. Il y a eu des maladresses de commis, je crois, par les hommes du gouvernement, par le ministre de l'Éducation nationale, qui, à un certain moment, a dû être un peu affolé. Les hommes qui avaient des responsabilités ont été un peu affolés. J'ai l'impression que c'est ce qui a contribué à aggraver la situation. Moi, je crois qu'il n'y aurait pas eu ces nuits affreuses du mois de mai s'il y avait eu de part et d'autre un dialogue, tout simplement, un dialogue. Enfin, il y a encore au sein de l'université une crise assez grave.
Toujours.
Toujours, oui. On enseigne, les méthodes d'enseignement n'ont pas varié depuis un siècle. Et l'évolution des idées, l'évolution des mœurs, le fait aussi que les jeunes sont mûrs beaucoup plus tôt qu'autrefois. Je ne sais pas, enfin si, c'est dû sans doute à des phénomènes sociaux, développement des moyens d'information par exemple, je pense à la télévision, mais aussi peut-être à des causes, peut-être des causes alimentaires. Puis enfin, il y a l'éducation aussi qui a joué un grand rôle. Alors les jeunes ont voulu se libérer de l'emprise, non pas du patriarche, mais enfin de leurs aînés. Et c'est toute l'organisation de la société actuelle qu'ils contestaient sur les barricades. Mais alors après, ils n'ont pas su s'organiser. C'était un mouvement qui avait une certaine part de réalisme, mais qui avait aussi une grande part de romantisme.
Ah oui.
Et d'idéalisme.
Oui.
Et puis après, on s'est aperçu que lorsque cette flambée de romantisme était tombée, il n'y avait rien derrière.
Oui.
Des hommes politiques se sont emparés du mouvement spontané, parce que je crois qu'au départ, c'était un mouvement spontané. Ont voulu l'exploiter à leur profit, comme toujours. Il y a toujours ceux qui profitent d'une situation donnée. Et puis finalement, le problème s'est politisé. Maintenant, je crois que tout est redevenu assez calme.
Et les grèves, mai
dernier? Les grèves de mai dernier, vous savez, le pouvoir d'achat des Français n'avait pratiquement pas augmenté depuis de nombreuses années, alors que dans les autres pays, il avait augmenté. Enfin, dans les autres pays européens. Alors là aussi, il y avait un malaise social assez évident, mais il fallait pas laisser l'abcès crever, il fallait, je crois, résoudre des problèmes avant. On n'a pas fait en temps voulu ce qu'il aurait fallu, sous prétexte qu'il fallait respecter un certain nombre de données économiques, et aussi qu'il fallait éviter l'inflation, qu'il fallait un plan de stabilisation. Alors avec toutes ces mesures, le pouvoir d'achat n'avait pas augmenté, et puis les syndicats ont profité des événements de mai pour obtenir une revalorisation sensible des salaires, qui malheureusement a été en partie annulée depuis par l'augmentation du prix de la vie. Ça, c'était à prévoir, quoi. On ne peut pas augmenter une masse salariale de 13% ou de 15% sans qu'il y ait des répercussions sur le prix à la consommation.
Tout à fait autre chose, monsieur. Je crois que vous aviez parlé déjà à Mme Bix de l'industrie du vinaigre.
Ah oh, oui, alors là, je ne suis pas du tout compétent dans cette matière. Je ne sais même pas, je ne devrais pas le dire, mais en tant qu'Orléanais, je devrais le savoir. Quand on a commencé à faire du vinaigre à Orléans. Mais voyez-vous, le vinaigre, c'est du vin qui est avarié et qu'on transforme avec différents processus de fermentation. On transforme l'alcool en acide acétique. Et l'industrie du vinaigre a pris naissance à Orléans, parce qu'Orléans était d'abord une région viticole, mais aussi le lieu de passage des vins qui venaient de la vallée de la Loire en aval et qui étaient destinés à la région parisienne. Alors, le transport de ces vins se faisait par voie d'eau au XVIIe, au XVIIIe siècle et ensuite était acheminé par la voie terrestre, par la route vers Paris. Alors, il y avait un transbordement à Orléans et je crois que c'est à ce moment-là qu'on vérifiait l'état des vins qui avaient voyagé sur la Loire et qui avaient pu aigrir en cours de route, étant donné qu'à cette époque-là, les moyens de transport étaient assez lents et qu'on ne connaissait pas sûrement certains produits chimiques qui aujourd'hui évitent aux vins d'aigrir. Et les vins qui étaient avariés restaient à Orléans et étaient transformés en vinaigre. Je crois que c'est ça l'origine du vinaigre d'Orléans.
Merci.